On va faire le troisième cours de survol du Nouveau Testament. Nous allons continuer sur ce que nous avons commencé la semaine dernière et puis nous irons jusque là où nous irons. On verra bien. Voilà, on va prier déjà pour ce cours. Seigneur Jésus, on veut te remettre ce bout de soirée, ce cours. On te prie pour qu'il y ait ta présence, pour qu'il y ait des choses qui soient utiles à nos vies. Et puis on te prie aussi pour une compréhension, une clarté. Et que tu manifestes ta présence à travers ta parole, à travers les choses que nous allons voir ce soir. Et que tu nous aides à bien comprendre et avoir des idées assez claires à ce sujet. Amen. Donc, la semaine dernière, on avait commencé à parler du sermon sur la montagne. Je vais continuer à vous en parler. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc deux personnes n'étaient pas là. En très rapide, je vais juste résumer quand même une chose que j'avais dit, pas forcément sur le sermon sur la montagne, mais voilà, la semaine dernière, j'avais dit en prenant Luc 15, donc je ne vais pas redire tout pareil, mais je vais dire juste les points importants. En prenant comme exemple le chapitre 15 de Luc, j'avais expliqué que dans les évangiles, en fait, nous voyons des discours, nous voyons des paraboles, nous voyons des miracles et nous voyons, je crois que c'est tout. Je me trompe ou c'est tout, je crois. Hein. Parabole, discours, miracle et c'est tout. Donc j'étaille de la parabole, sinon on va s'en mêler dans des choses et on va dire des choses au minimum que la parabole ne dit pas et au maximum que Dieu ne dit pas non plus. Quand je dis ça, je veux dire par là que, par exemple, quand un enseignant ou un pasteur il va prêcher sur une parabole, il peut très bien dire des choses qui sont bibliques, qui sont vraies, que Dieu pense, mais ce n'est pas ce que dit la parabole. Il n'a pas dit d'hérésie, c'est vrai, Dieu est d'accord avec ce qu'il a dit, mais ce n'est pas ce que dit le texte. Donc le problème de ça, c'est qu'à partir du moment où je commence à faire dire au texte d'autres choses que ce qu'il dit, même si c'est correct, en fait, d'abord, je n'étudie pas correctement, je n'enseigne pas correctement, je transmets aux gens qui sont en face de moi une mauvaise manière de lire leur Bible et de la comprendre, et je suis moi-même en danger, à un moment donné, de me tromper de manière plus grande sur d'autres portions, parce que finalement, ce qui me garantit de ne pas dire des bêtises, c'est ce que je sais des autres, et c'est plus ce que je comprends du texte. Je dis des choses qui sont vraies, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Pourquoi je dis des choses vraies ? Parce que j'étais enseigné par d'autres, qui peut-être ont été plus calés que moi, peu importe, qui ont sorti dans la Bible des choses qui sont vraies, et donc je dis des choses qui sont vraies, mais je m'appuie sur un texte qui ne veut pas dire ça, en fait. Et ensuite, donc ça vous comprenez. Donc, et le petit exemple que j'avais pris, c'était de faire comprendre qu'en Luc chapitre 15, il y a trois paraboles, une qui concerne une chose, une qui concerne un animal, et une qui concerne un individu. Et dans les trois cas, la chose, l'animal ou l'individu sont perdus. Ça, c'est le point numéro 1. Et le point numéro 2, c'est que le propriétaire se réjouit de retrouver. Donc, que ce soit la chose, l'animal ou l'individu. Ce qui veut dire que quand j'arrive à Luc chapitre 15 et la parabole du fils prodigue, quelque part, je ne suis pas autorisé à décortiquer tout dans le détail, à donner du sens à tout, parce que ce n'est pas ce que ça veut dire. Cette parabole, en plus, elle est dans le contexte d'un chapitre où justement il y en a deux qui sont relativement parallèles. Donc l'idée principale, ou les deux idées principales, c'est ce que je viens de dire. Et ensuite, les choses sont annexes et ne sont pas des doctrines intangibles ou absolues des Écritures, même si des fois, ce sont des choses vraies que je peux se dire. Donc il faut replacer un peu les choses dans leur proportion. Tout comme, et ça je vous l'avais dit, une parabole, c'est une forme d'illustration. Mais de toute façon, une illustration, quand je raconte une histoire, quand je prends quelque chose pour illustrer une vérité, il ne faut pas perdre de vue que j'illustre une vérité. L'illustration n'est pas la vérité. Donc quand Jésus, par rapport à son retour, il dit je viendrai comme un voleur, ça ne veut pas dire que Jésus est un voleur. Ça parle de la rapidité avec laquelle, et du fait que ce n'est pas attendu que ça arrive. Ça, c'est la chose que j'ai à comprendre. Si je commence à vouloir analyser, mais alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est comme un voleur, machin, hein, je vais forcément dire des bêtises. Alors là, c'est un peu gros, donc je ne cherche même pas à les dire. Mais quand c'est un peu plus subtil, je vais chercher à dire des choses qui sont plus ou moins vraies, ça se tient plus ou moins, ça cadre, ça cale, ouais, apparemment ça tient debout, la chaise elle tombe pas par terre, mais en fait c'est faux. C'est faux, c'est pas ce que dit le texte. Et au mieux pour moi, je dis peut-être pas une bêtise, mais c'est pas ce que dit le texte. Et du coup, je ne fais pas d'abord bien mon boulot, mais en plus, je suis sur un terrain qui n'est pas très correct. C'est pour ça qu'ensuite, on a démarré un peu le sermon sur la montagne. Je vais vous en remettre une couche, une grosse couche. Le sermon sur la montagne, donc ce que je vous ai expliqué et que je redis ce soir, c'est qu'il y a deux phases dans le ministère de Jésus, donc dans tous les évangiles, on est d'accord. D'ailleurs, très intéressant, je vous avais dit que l'évangile de Jean relatait 50 jours de la vie de Jésus, et la moitié de l'évangile de Jean relate la dernière semaine de Jésus. Par voie de conséquence, ce qui est traité dans le sermon sur la montagne n'est pas traité dans l'évangile de Jean. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, il y a donc deux parties dans le ministère de Jésus, ou deux périodes. Il y a une première période où Jésus vient vers les Juifs, vers Israël, en se présentant comme étant le roi qui doit venir pour régner sur terre 1000 ans avec les Juifs. Et ça, c'est l'offre qu'il fait à Israël, et c'est le sermon sur la montagne. Il est dans ce contexte-là. Enfin, il n'est pas que dans ce contexte-là, il est l'offre de Jésus comme roi pour Israël et pour régner là, maintenant, de suite. Le problème qui s'oppose à ça d'un point de vue intellectuel et qui va être rétorqué, c'est de dire mais il y a un problème, parce que si les Juifs avaient accepté, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de salut, il n'y a plus rien qui colle. Donc Jésus savait, donc en fait, ou Dieu savait, et donc en fait, soit l'offre elle n'est pas sincère, soit il n'y avait pas vraiment d'offre. En fait, si l'offre elle est sincère, il y avait réellement une offre, et le problème intellectuel que nous pouvons avoir derrière, je dirais que c'est le problème de Dieu et c'est pas le mien. Tout comme pour une autre doctrine, quand il nous est dit à maintes reprises que nous sommes élus, je parle par rapport au salut, nous sommes élus pour être sauvés. Donc, premièrement, contrairement à la doctrine calviniste ou hyper-calviniste, ça ne veut pas dire que d'autres sont élus pour aller en enfer. Mais quand il est dit que Dieu nous a élus, quand dans Jean il est dit « Vous ne pouvez pas venir à moi si le Père ne vous attire », ça vous donne l'idée que tout est de Dieu. Et que l'homme, finalement, n'est qu'un robot, un pantin, qui est au bénéfice ou pas au bénéfice, en l'occurrence. Mais la réalité, on sait qu'elle est... Pardon. On sait qu'elle n'est pas celle-ci, puisque par ailleurs, dans les Écritures, on voit bien que Dieu fait une offre, une demande de repentance. Donc est-ce que cette demande, elle n'est pas sincère ? Si c'est simplement Dieu qui choisit arbitrairement, ben quand il dit « repentez-vous », c'est pas sincère. Puisqu'il fait ce qu'il veut. C'est stupide. Donc on a le même dilemme, en fait. Et ce qu'on a besoin de savoir, c'est que oui, Dieu d'un côté fait tout, mais d'un autre côté, il y a une demande, en l'occurrence de demande de repentance et de foi, qui est réelle. Et ce qui peut nous aider à comprendre un peu plus, un peu mieux, on va dire, à rassembler un peu les bidons là, sur ce sujet, sur cette doctrine-là, c'est Romains 8, 29 et 1 Pierre 1, 4, 5, je crois, qui, dans les deux cas, parle de la préconnaissance ou de la préscience de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, préscience ou préconnaissance de Dieu ? Ça veut dire que Dieu connaît à l'avance. Mais tout simplement, le fait de connaître à l'avance ne veut pas dire qu'il choisit, il influe sur les choses. C'est-à-dire que Dieu fait une offre, « Croyez en moi pour être sauvé », c'est une offre franche, faite à tous, mais lui, de son côté, étant Dieu et connaissant tout, et ayant une préconnaissance, connaissant les choses à l'avance, il sait qui va répondre favorablement et qui est-ce qui ne va pas répondre favorablement. Mais nous, en étant enfermé dans le temps et dans le fonctionnement qu'on peut avoir, on se dit, eh oui, non, mais c'est pas honnête. où c'est pas cohérent. C'est-à-dire que tu dis ben il faut croire pour être sauvé. Tu le proposes, mais tu sais que l'autre il va pas y rentrer dedans. Ouais, mais l'offre elle est réellement sincère et la personne au moment où elle reçoit l'offre, elle est réellement responsable et en capacité comme n'importe qui d'une certaine manière de répondre favorablement. Et donc elle est pleinement responsable du choix qu'elle fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi cette espèce d'ambivalence. D'un côté, ben, Dieu semble faire tout, et d'un autre côté, il y a une forme de part de l'homme qui rentre là-dedans, qui est difficile à concilier intellectuellement, même si je voulais concilier un tant soit peu. Ben, par rapport à l'offre du royaume, c'est pareil. Qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient accepté ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais par contre, c'est que quelles que soient les périodes de temps, quelles que soient les dispensations, quelles que soient les époques de l'humanité, même si Dieu fonctionne de manière différente avec l'homme au fur et à mesure, les hommes sont toujours sauvés, de toute façon en fond d'écran, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, et qui, simplement l'objet de la foi va changer. Et le mode opératoire va changer aussi. Donc les trois grandes dispensations, c'est la loi, la période de la loi avec Moïse, donc jusqu'à Jésus. L'autre, c'est la période qu'on appelle de la grâce ou de l'Église, c'est celle sur laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est la résultante de l'œuvre accomplie sur la croix. Et la troisième dispensation, c'est celle qui viendra, qui est le millénium, et qu'on peut d'une certaine manière y incorporer en partie à la tribulation. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est pas la même chose, mais voilà, par rapport aux Juifs, il y a quelque chose quand même qui va coller un peu. Et ça c'est la dispensation du royaume, en fait. Donc il y a la loi, il y a le royaume, et il y a la grâce. Et aujourd'hui, nous vivons dans la grâce, et nous ne sommes pas sous la loi. Et en même temps, Jésus n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie. Et à un moment donné, il y aura un royaume millénaire pour Israël, terrestre, avec des conditions terrestres un tant soit peu différente, avec une forme de retour en arrière, puisque, comme on l'a vu dans le sermon sur la montagne, donc c'est la loi du royaume, en l'occurrence à venir, mais qui était proposée dans l'immédiat. Et dans la loi du royaume, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la loi de Moïse en pire, en exagéré, en plus légal, si vous voulez. Par contre, il y a une chose qui est très intéressante, tout à l'heure je vous ai dit, on prend des textes et on fait dire un peu d'autres choses. Tout le monde connaît Jérémie 31-31. Ne me regardez pas avec des yeux plus gros que vos lunettes, s'il vous plaît. Non, tout le monde connaît, vous allez voir, une fois que je le lis, tout le monde connaît Jérémie 31-31 à 34. Et ça, c'est important à comprendre. Vous allez voir. Donc forcément c'est dans l'Ancien Testament, c'est un moment où le peuple va être déporté plutôt, ou l'est déjà, puisque Jérémie il est juste avant et ensuite il se retrouve déporté avec les autres en fin de compte. Il est dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc là, il y en a qui vont dire, en fait, cette alliance nouvelle, c'est la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que ces bénédictions, Israël a loupé, et elles sont transférées sur l'Église. Sauf que ceux qui lisent ici, et qui sont Israël, ne peuvent pas comprendre ça. Autre chose, c'est pas une preuve absolue, mais par exemple, vous savez que je crois que c'est dans Exode, à un moment donné, le peuple est rebelle, Moïse se retrouve à discuter avec Dieu et Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Moïse ? Il dit eux je vais les zigouiller et je veux refaire un nouveau peuple avec toi. Et Moïse dit non mais ça en fait c'est pas toi et on va pas faire comme ça. Et Dieu agrée l'attitude de Moïse et fait ce que Moïse dit, c'est-à-dire qu'il n'extermine pas Israël, il ne recommence pas un autre peuple avec Moïse. Qui, soit dit en passant, Dieu aurait pu rester néanmoins, d'une certaine manière, si on veut un petit peu tirer sur les cordages, il aurait pu rester encore fidèle à son alliance et à ses promesses envers Israël, puisque Moïse fait partie d'Israël. Donc même si on repart à zéro à partir de Moïse, on repart à partir d'Israël néanmoins. même si on a exterminé tout le monde. Donc à la limite, Dieu pourrait encore retomber sur ses pieds comme un chat, mais il ne le fait pas. Et il dit que finalement, ce que dit Moïse est juste et vrai. Mais en fin de compte, quelle était la proposition de Moïse ? Pas la proposition, la proposition de Dieu à Moïse. Exactement ce que disent les amillénaristes aujourd'hui. Israël a échoué, les promesses, elles ne sont plus pour eux, elles sont pour l'Église. Et à cette proposition, qui n'est pas la même, mais qui s'y apparente quand même très fortement, Dieu a écouté Moïse et n'a pas exterminé tout le monde et n'est pas reparti sur un nouveau peuple avec Moïse. Pourquoi l'aurait-il fait 1400 ans plus tard ? Ce n'est pas forcément un argument massu, mais en tout cas, ça se tient. Alors, ici, on continue. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai de la maison d'Israël et de la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Donc ça, c'est l'alliance de la loi, avec Moïse. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Voilà, ça fait que répéter ce que je dis. Alliance qu'ils ont violée. On est d'accord, ils l'ont violée, c'est pour ça qu'ils ont été déportés après. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit, jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Et quand on lit ce passage-là, souvent, qu'est-ce qu'on fait ? On l'applique à l'Église. Même nous qui sommes dispensationalistes et qui croyons qu'il y a un avenir pour Israël. Alors qu'en fait, ce texte-là, il s'adresse à Israël. Et il parle justement de cette période où ça va être le royaume, où ça va être le millénium. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, il y a des similitudes avec des choses qu'il y a dans la période de la grâce. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que d'une dispensation à une autre, Dieu ne rase pas tout, il ne repart pas à zéro sur autre chose. Donc il y a des choses qui, dans la loi, perdurent dans la période de la grâce, et il y a des choses qui seront dans le royaume, qui sont peut-être déjà là, dans la période de la grâce. Il n'y a pas de problème. Néanmoins, le point qui est important ici pour comprendre un peu toutes les choses, parce que quand on dit, il y avait la loi, et alors le royaume, ça va être encore plus légaliste, si vous voulez. Tu dis, mais attends, à quoi on joue là ? Et en plus, il se trouve que dans l'histoire de l'humanité, entre les deux, il y a la grâce, c'est complètement différent, et ça fait un retour en arrière, mais c'est plus qu'en arrière, on retourne encore plus en arrière qu'en arrière, quelque part, on a l'impression. Non, là, ici, il y a quelque chose qui est quand même... Enfin, non, oui, si c'est vrai, mais néanmoins, il y a quelque chose qui est très important. Ici, il est dit, l'alliance que je ferai, c'est que je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je serai leur Dieu. Ça, c'est en parlant d'Israël. Pendant le royaume... Donc, ce qui se passe, c'est que, pensez une chose, pendant le royaume, le millénium, il y a deux mots qui ressortent de manière primordiale et que l'on voit dans le sermon sur la montagne, et qu'on voit dans les passages qui se rapportent à la même période. C'est la paix et la justice. Pendant le millénium, le diable, il est enchaîné. Sur terre, il y a des croyants, il y a des païens, il y a l'Église qui règne avec Christ. Et à la fin du millénium, le diable est relâché, il fomente une rébellion, et il y a des hommes qui vont s'attacher au diable. Et pourtant, qui est-ce qui règne pendant 1000 ans sur terre ? C'est Jésus. Donc c'est juste, et pendant 1000 ans, il y a la paix. Et pourquoi il y a la paix ? Parce que la justice de Dieu s'impose sur la terre de manière absolue. Et à partir du moment où il y a la chair de l'homme, comment est-ce que la justice de Dieu peut s'imposer de manière absolue d'un point de vue terrestre, je parle pas d'un point de vue spirituel. Vous avez une idée ? Comment est-ce que la justice de Dieu, elle peut s'imposer de manière absolue sur terre à partir du moment où il y a les hommes et qui, donc, potentiellement, peuvent pécher. Et alors, une justice de fer, ça veut dire que... Oui, c'est ce qu'il dit en Apocalypse, justice de fer. ça veut dire que c'est intransigeant. Ça veut dire que pour que la justice de Dieu, elle soit manifeste de manière, on va dire quelque part, parfaite et absolue sur terre, le seul moyen, c'est que la loi soit absolue et qu'il n'y ait pas de bulle d'air pour respirer. À partir du moment où vous péchez, il y a sanction. Parce que sous la loi, sur toute la période de la loi avec Moïse, bien sûr qu'il y a la loi. Mais d'abord, le peuple n'a pas toujours été sur son terrain. La loi n'a pas toujours été... Enfin, je pense, à mon avis, qu'elle n'a jamais été parfaitement appliquée de toute façon en Israël. C'est simplement logique de penser ainsi, de toute façon. Et alors, quand en plus ils n'étaient pas sur leur terrain ou pas en autorité sur le terrain, comme à l'époque de Jésus, Israël était sur la terre d'Israël, mais c'était les Romains qui gouvernaient. Donc, de toute façon, ils ne pouvaient pas appliquer la loi ou quoi que ce soit de manière correcte. Ou en tout cas, ils ne pouvaient pas de manière absolue. Donc du coup, voilà. Alors, justice et paix. Une fois, je vous ai expliqué, je crois que c'était le semestre d'avant, que par rapport au millénium, on peut se poser la question, finalement, pourquoi ce millénium terrestre et tout, machin, enfin voilà. Presque c'est quoi l'intérêt, quoi, en fin de compte. Surtout qu'en plus... La croix est passée et nous sommes dans la période de la grâce et en gros, il n'y a pas mieux sauf d'aller au ciel. Donc, on a l'impression que presque on met la marche arrière et pff, ça sert à quoi ? Je veux dire, moi, personnellement, en gros, je n'ai pas envie de vivre le millénium d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, hein ? Je pense que ça se passera bien, mais je veux dire, là, on vit dans une période de grâce, ok, déjà, c'est super, et tu te dis, ben, le jour où tu meurs, le seul truc qui t'intéresse, c'est d'aller au ciel pour l'éternité avec Jésus. Je n'ai pas envie de revenir ici, moi, ça ne m'intéresse pas. Même si le lion, il ne bouffe pas la brebis, parce que c'est ce qu'il dit. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, c'est quoi l'intérêt ? Ben, l'intérêt, et je vous l'avais dit, mais je vous le redis là, parce que c'est quand même très important, c'est que, justement, Dieu va au bout des choses. Et Dieu a promis des choses, et il est fidèle, et il va aller au bout de ce qu'il a promis pour Israël. Donc, du coup, la période de l'Église, de la grâce dans laquelle nous vivons, du coup, se retrouve être une parenthèse qui, d'une certaine manière, on pourrait dire, n'était pas prévue, mais certainement qu'elle était prévue dans la pensée de Dieu, évidemment. Et du coup... dans l'Ancien Testament, même sous la période de la loi, il y a pas mal de promesses et de références à un Dieu qui est juste et qui va faire justice. Vous avez même dans les psaumes David qui va avoir des psaumes d'imprécation dans lesquels il va demander vengeance à ses ennemis et qui va demander justice de la part de Dieu. Pourtant, il est pécheur et il sait qu'il est pécheur. Mais il dit oui, je sais que je suis pécheur, mais en fait, moi quand même, ou c'est même pas quand même, le quand même c'est pas un bon terme, mais en fait, je suis conscient que moi, je suis dans ta sphère. Et eux, ils font le mal parce qu'ils sont en dehors de ta sphère. Et comme on est sous la loi, ta justice, elle doit s'imposer à un moment donné. Et manifestement, que ce soit sous la loi ou que ce soit aujourd'hui sous la grâce, de toute façon, qu'est-ce que nous constatons de la vie sur terre ? C'est que la justice de Dieu ne s'impose pas. Donc, il faut bien qu'un jour, elle s'impose. Et il y aura cette période de 1000 ans où elle va s'imposer. Et l'intérêt de qu'elle s'impose est aussi de montrer une chose qui est quand même assez intéressante et que je vous avais dit quand on avait parlé de l'Ancien Testament. J'avais dit que... Ben on va voir, on va réviser. Donc les 10 dispensations, vous avez compris qu'est-ce que c'était. Hein, François nous l'a rappelé il y a deux cours, c'est bon. Enfin, pas une particularité... Mais chaque dispensation termine par quoi ? Par un échec de l'homme. Chaque dispensation, chaque période de temps où Dieu fonctionne d'une manière particulière avec l'homme, ou avec une partie de l'humanité, ou avec toute l'humanité, ou avec un peuple, etc., etc., ça termine toujours par un échec. Toujours. Donc dans le jardin, on mange le fruit... Noé, on copule avec les anges, bon, enfin bref, etc., etc. La loi, ben, on n'arrive pas à l'accomplir et à la fin, on crucifie le Messie, etc. Donc, à chaque fois, ça termine par un échec de l'homme. Et du coup, cette dispensation du millénium, donc du royaume des cieux, va terminer également par un échec de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je veux dire quand je dis que Dieu veut amener, aller au bout des choses, c'est que dans ce millénium, à la fin du fin, en fait, tout homme, quand il dit que tout homme fléchira le genou, ben, quelque part, une raison pour laquelle tout homme est obligé de fléchir le genou, même si ce n'est pas forcément pendant le millénium, même si quelque part les gens qui ne croient pas, ou en fait c'est même pas qu'ils croient pas parce qu'ils ont Jésus devant eux, mais qui veulent pas se soumettre plutôt, quelque part plient quand même le genou, puisque sinon ils sont sanctionnés par la loi. Ils sont obligés de reconnaître que Dieu est juste et que eux ont tort, même s'ils veulent pas se soumettre. Parce que pendant 1000 ans, le diable est enchaîné. C'est Jésus qui règne. C'est donc du coup des gens remplis de l'Esprit de Dieu qui vont gouverner sur terre. Et à la fin, dès qu'on relâche 5 minutes le diable, vous avez encore des hommes qui arrivent à se rattacher au diable pour s'opposer à Dieu. Donc, quelque part, Dieu arrive en montrant l'efficience plutôt de sa justice, il montre que voilà, nous sommes incurables d'incurables. Donc derrière, Dieu ne peut pas être pris en défaut quelque part. Vous voyez, il est forcément juste. Après, ce qui est aussi encourageant dans le fait qu'il y a le millénium, c'est que quand Dieu promet quelque chose, une, c'est compréhensible pour les gens qui l'entendent, et deux, il va le faire de manière absolue. Ça doit être important pour notre vie. C'est-à-dire que je pense que quand on est chrétien et qu'on voit des miracles partout et qu'on entend Dieu nous parler toutes les 30 secondes, on est en danger. On est en danger parce que quand je dis que Dieu me parle toutes les 30 secondes, ça va pas prendre plus d'une journée pour que je me contredise sur ce que Dieu aura dit. Et si je me contredis sur ce que Dieu aura dit, je ne vais jamais voir la fidélité de Dieu parce que finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a promis puisque j'ai dit tout et le contraire en 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre à écouter ce que Dieu nous dit. Et quand il nous a parlé, eh bien, nous pouvons être sûrs qu'il va faire ce qu'il a dit. Quand je comprends quelque chose dans la parole de Dieu réellement, je peux être sûr que ça tient la route. Il va s'engager selon sa parole, ça va se faire. C'est pas, ouais, il est fort, mais bon, c'est quand même que Superman, hein, il peut avoir la grippe aujourd'hui, on ne sait pas quoi. Non, c'est sûr. S'il dit que, voilà, c'est, je ne sais pas n'importe quoi, mais dire, s'il dit que tu vas pas manquer de pain, tu manqueras pas de pain. C'est tout. S'il dit que, voilà, il te promet qu'il va y avoir telle ou telle chose dans ta vie, il va y avoir. Et dans le positif comme dans le négatif, d'ailleurs. Vous comprenez un peu là tout le tournicoton ? Ouais ? D'accord. Alors, donc je disais là, donc Jérémie 31, donc pour déjà expliquer que c'est vrai, expliquer en termes d'interprétation que souvent on se fourvoie aussi, et puis expliquer que dans le royaume, donc du coup, c'est la loi plus, mais alors comment ils vont faire les gens, quoi ? Ben, ils vont faire que je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc, ils pourront. En tout cas, il y aura la ressource pour. Par contre, celui qui ne veut pas se soumettre, qui s'oppose, qui machin, et qui va juste essayer de baisser la tête pour ne pas prendre trop de coups sur la tête, celui-là, forcément, ben, il se retrouve à chaque fois en défaut. Mais à lui de se tourner vers celui qui a la solution et qui sera devant lui. En plus, là, il pourra dire qu'il le voit. Il est là. Nous, on peut dire qu'on ne le voit pas. Mais lui, il pourra dire qu'il le voit. Donc ensuite, alors on avait dit que donc, dans le sermon sur la montagne, ce qui nous montre, entre autres, que ça ne s'adresse pas en premier lieu à l'Église, c'est que du coup la loi elle est renforcée. En quoi est-ce qu'elle est renforcée ? En deux choses. Une, c'est que le sermon sur la montagne, il s'adresse, il vient gratter les motivations. D'une part, donc par exemple, sous la loi, voilà, si tu commets un adultère physiquement, on te lapide. Dans le royaume, si tu regardes une femme avec un désir qui n'est pas correct, tu as déjà commis adultère. Donc tu es déjà répréhensible. Donc ça veut dire que ça vient gratter à l'intérieur les motivations, et pas simplement est-ce que tu fais les choses à peu près correctement. Et la deuxième chose, la deuxième chose, c'est que les entre guillemets dérogations que l'on voit dans la loi de Moïse, elles ne sont plus là. C'est-à-dire que par exemple, il est dit à un moment donné, par rapport justement au divorce et à la loi de Moïse, il est dit, parce que les pharisiens et sadducéens, ils viennent vers Jésus, ils disent, mais dans la loi de Moïse, il nous a été autorisé d'écrire une lettre de répudiation pour notre femme. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond ? Il répond, oui, ça vous a été écrit, mais en fait, c'est une dérogation. Ça vous a été écrit parce que votre cœur est mauvais. Mais au commencement, dispensation précédente, il n'en était pas ainsi. Donc la pensée de Dieu, c'est au préalable. Mais pendant un temps, il a accordé une chose. Tout comme, je dirais, ça c'est contextuel, mais et culturel, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la polygamie. Pourtant, c'est pas le cœur de Dieu. C'est une forme de dérogation, si on peut dire, qui est dans un contexte culturel. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, Dieu va être beaucoup moins tendre avec celui qui vit la polygamie ou quelque chose d'apparenté que Israël à l'époque. Pourquoi ? Parce que même s'ils avaient la loi, ils étaient dans un contexte culturel où les choses se faisaient d'une certaine manière. Et il se trouve que Dieu a accepté que de laisser, d'une certaine manière, plus ou moins faire. Ce qui n'empêche pas que même s'il a laissé, entre guillemets, faire, il y a des conséquences toujours au péché, même quand c'est par ignorance. Donc vous vivez la polygamie, lisez Genèse, tous les bons hommes là, qui sont avec deux femmes, puis les deux servantes, et puis etc. Vous voyez les histoires qui vont bien. Les patriarches, vous voyez bien les histoires. Tiens, je te prends ta mandragore et toi, tu iras coucher avec lui ce soir. Enfin, en avant, que des trucs sympathiques à l'eau de rose. Voilà, c'est tout ça. Mais ça, c'est de la dérogation, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis dérogation ? C'est que c'est pas forcément le cœur de Dieu, mais à un moment donné, même si c'est la loi, il y a des choses que, ok, il dit, bon, on va laisser courir pour l'instant. Mais dans le royaume, on laisse pas courir, il n'y a rien qui court, là. Plus personne court, là. Là, il n'y a plus personne qui court. Là, on coupe les jambes, il n'y a plus personne qui court. C'est fini, là. C'est réglé, là. C'est, tu marches ou tu marches plus. Voilà. Donc, c'est en ça aussi que c'est renforcé. Donc, la motivation intérieure et le fait que, d'un point de vue légal, il n'y a plus de dérogation ou de laisser-aller ou un peu de mou. Autre chose que je disais qui n'était pas pour l'Église ou que ça ne s'adressait pas en premier lieu à l'Église, on a lu le début. Le sermon sur la montagne, c'est extrêmement conditionnel. En fait, c'est que conditionnel. C'est que conditionnel, et même par endroits, on voit que c'est conditionnel pour aller au ciel, en plus. Donc ça concerne pas l'Église. En tout cas, pas en premier lieu. Après, comme je vous l'ai dit, que ce soit la loi, sous la loi, que ce soit par rapport donc au royaume ou même une autre dispensation antérieure, même si dans en première lecture, ça ne s'adresse pas, on va dire, à nous aujourd'hui, il peut y avoir des enseignements pour nous. On lit la loi de Moïse, il y a des choses pour nous. Sauf qu'il va falloir que j'y ai inclus, en termes d'interprétation, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Je vais vous prendre un exemple. Un très bon exemple, d'ailleurs. Tout le monde connaît ce verset. Romains 8, 28. D'accord ? Vous connaissez ? Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. D'accord. Si je m'arrête là, et dans une certaine compréhension, ce verset, il pourrait aller très bien dans le sermon sur la montagne. Et en fait, je peux faire un message très légaliste à partir de ça. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et je vais insister sur celui qui aime Dieu. Et je vais expliquer peut-être qu'est-ce que celui qui aime Dieu ? C'est quoi aimer Dieu ? Oui, mais là ta motivation, elle n'est pas pure, donc en fait, tu n'aimes pas Dieu. Ou là, si tu fais ça, ben, tu n'aimes pas Dieu. Donc si tu n'aimes pas Dieu, donc tout concourt pas à ton bien. Sauf quand je lis Romains 8, 28, et surtout que je lis la suite, tout à l'heure, le verset pour la préconnaissance, alors, ce n'était pas Romains 8, 29, c'était 8, 38 ou 39. Quand je lis la suite, ben, on va la lire. Parce que justement, ça c'est une parole qui est dans le contexte de la période de la grâce. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi... Non, c'était bien 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi est-ce que je dis que c'est sous la grâce? Parce qu'en fait, d'après ce que je viens de lire là, celui qui aime Dieu, en fait, c'est simplement celui qui est sauvé. Mais il est sauvé, il le sait déjà, il n'est pas en train de se sauver. Alors que dans la loi, quelque part, tu es tout le temps en train de te sauver, puisque tu es dans un système conditionnel. Et dans le royaume, tu es aussi dans quelque chose qui est conditionnel. Pour la prédication de l'entrée dans le royaume, le précurseur de Jésus, qui est Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il prêche? Un baptême d'eau. Quelle est la nature du baptême de Jean le Baptiste? La repentance. Donc, c'est la repentance. C'est pas croix et reçoit. C'est repens-toi et rentre dans les bonnes œuvres, mets en pratique les choses. Qu'est-ce que j'avais encore à vous... Donc ça, je vous l'ai dit. Une chose qu'on voit aussi dans le sermon sur la montagne, c'est que donc il y a un caractère qui est conditionnel qui fait que ça ne correspond pas à la période de la grâce, mais on voit aussi que ce n'est pas la loi. Parce que, et qui explique aussi d'ailleurs par là même le rejet, le report de la proposition du royaume, c'est que l'interprétation et l'application de la loi de Moïse par les scribes et les pharisiens à l'époque est critiquée dans le sermon sur la montagne. Ils sont traités d'hypocrites, etc., etc. Donc ça veut dire que, ok, votre loi, là, en fait, et même il va au point de dire presque c'est votre loi et c'est pas la mienne, alors que pourtant c'est la sienne. Sauf que leur interprétation, leur compréhension et leur mise en pratique de la loi de Moïse n'est pas correcte pour Dieu. Et il le fait savoir à cet endroit-là. Donc il montre l'esprit d'hypocrisie, l'esprit de jugement. Une chose aussi qui explique le rejet d'Israël, donc de l'entrée dans le royaume, c'est qu'ils ont... je dirais que la vision des religieux à l'époque de Jésus nous montre la vision d'Israël sous la loi, de manière générale, jusque-là. Et c'était une vision qui était, nationaliste et... Comment on pourrait dire ça? Est-ce qu'on peut dire égoïste? En tout cas, centré uniquement sur ceux qui ont reçu la promesse. Alors qu'en fait, il y a une dimension... Même la loi, elle a été donnée pour Israël, mais en fait, Israël a été un peuple choisi, pas pour dire c'est mieux que les autres. Il a été choisi pour être la lumière de Dieu pour les autres. Dans le sermon sur la montagne, pareil, interprétation que nous faisons, nous, dans l'Église. La lumière sous le boisseau. La lumière sous le boisseau, nous on dit, ben c'est quoi? C'est j'ai l'évangile, je dois évangéliser, si je mets la lumière sous le boisseau, il n'y a pas d'évangélisation et les gens ne sont pas au bénéfice. Ça ne parle pas du tout de ça. Sermon sur la montagne, annonce du royaume. Vous, Israël, sous la loi, vous auriez dû être une lumière sous le monde. Vous avez mis cette lumière sous le boisseau. À quoi vous servez ? À rien. Donc, je donne à d'autres. Vous saisissez ? Et après, en deuxième interprétation, je peux dire, OK, il peut y avoir le même principe qui peut s'appliquer pour l'Église aujourd'hui en termes d'évangile. Mais le texte, il ne parle pas de ça. Il parle d'Israël qui a mis la lumière sous le boisseau. Il ne parle pas de l'Église qui n'évangélise pas. Vous comprenez ? Alors, attendez. On ne peut plus la manière d'expliquer. Je reviens un peu. Ouais, bon, ça c'est bon, on l'a vu. Alors, je cherche un petit peu mes trucs. Alors, oui, voilà. Alors, il faut d'abord que je lise avant de vous le dire, parce que, pas que je m'en mêle les pinceaux. Les pinceaux, c'est pas bien. Voilà, pareil, à la fin du sermon sur la montagne, en Matthieu 7, elle nous est donnée un peu comme conclusion, si on peut le dire. Je vais vous lire un peu, à partir du verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui fait... celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Donc la condition, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas de croire. La condition dans la période de la grâce, ce n'est pas de faire la volonté de Dieu, c'est de croire. Par contre, il nous est dit ailleurs que la volonté de Dieu, c'était qu'on croit en Jésus et en celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas la même chose. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et nous, derrière, il y a l'illustration... Vous savez, de la maison sur le roc, la maison sur le sable, et puis les petits-enfants à l'école du dimanche, et il a plu, et c'est tombé, ok, d'accord. Et tout ça, qu'est-ce qu'on fait en général? On se l'applique à l'église, et tu comprends, il faut que tu bâtisses sur Jésus, D'accord, ça ne parle pas de ça. Là, la maison que tu bâtis, c'est quoi? C'est le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, donc tout le message qui précède, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc dans le royaume, celui qui est prudent, celui qui est sage, celui qui sera sauvé, c'est celui qui va mettre en pratique toute la loi renforcée. Mais, Jérémie 31:31, la loi était, je mettrai ma loi dans leur cœur. Elle ne sera pas éloignée, en fait. Donc du coup, après, ce qu'il y a derrière, voilà. Après, évidemment que pareil, on peut faire une application, etc. Mais le texte, dans un premier temps, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas à l'Église. Il ne nous parle pas... voilà. Donc après, évidemment, bien sûr. Après, si vous voulez, vous pouvez... Après, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est on prend tout le sermon sur la montagne, et même si les choses sont... En première lecture, sont... par rapport à l'annonce du royaume et à Israël, et que ça ne nous concerne pas, on peut prendre les choses... Et on peut y inclure l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et d'une manière spirituelle, voir l'enseignement qu'il y a pour nous. Parce que quand il est parlé d'hypocrisie, ben c'est valable aussi sous la grâce. Dieu n'est pas pour l'hypocrisie. Voilà, je veux dire, Dieu n'est pas pour le fait de se montrer dans les places publiques. Dieu n'est pas pour tout ce qui peut être décrit ici, en fait. Le jugement, là, au début du chapitre 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ça, c'est intéressant. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et des fois, on va dire ça dans l'Église. On va dire ne jugez point afin de ne pas être jugé. Mais excusez-moi, moi, je suis sous la grâce. Que je juge ou que je ne juge pas, je suis accepté dans le bien-aimé. Dieu n'est pas d'accord avec le fait que je juge, mais ça ne changera rien à ma relation avec Dieu. Je suis... Alors que là, si. Là, c'est dit noir sur blanc. Enfin, moi, c'est rouge sur blanc, parce que c'est les paroles de Jésus. Mais c'est écrit noir sur blanc, en fait, que non, non. Si vous jugez, vous allez avoir des problèmes. Dieu, quand je juge, moi, dans la période de la grâce, Dieu n'est pas d'accord avec le fait que je juge, peut-être que je vais avoir des problèmes dans le sens que je vais être châtié spirituellement, je vais attrister le Saint-Esprit, je ceci, je cela, tout ça, on est d'accord. Mais ma relation avec Dieu, elle est ce qu'elle est, le lien qu'il y a entre Dieu et moi, il est ce qu'il est par la croix de Jésus-Christ. Mon salut, il n'est pas du tout remis en cause, et je n'ai pas à attendre, je n'ai même pas à attendre au tribunal de Christ qu'il me tombe une montagne sur la tête. Alors que ici, quand je lis là, chapitre 7 de Matthieu, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Donc si tu juges, tu vas être jugé. C'est pas je vais te châtier comme un père châtie son enfant. C'est vous allez être jugé comme un citoyen d'un royaume. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, etc., etc. Donc après, on parle de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça nous concerne aussi, etc. Après, évidemment, pareil, on peut appliquer, notamment dans l'état d'esprit de Dieu, le fait qu'il y a une insistance dans la prière. Demandez, on vous donnera, etc. etc. On peut se l'appliquer, bien sûr. Un peu plus bas, lequel de vous donnera une pierre à son fils ? Là, on est en train de décrire, il est en train d'écrire dans le contexte du royaume, le caractère de Dieu dans la prière vis-à-vis des croyants à l'époque. Donc, quelque part, c'est valable aussi pour aujourd'hui. Dieu est le même Père qui ne va pas donner un caillou à quelqu'un qui demande un poisson. Bien entendu que, du coup, l'état d'esprit, ça va pouvoir s'appliquer assez simplement à nous. Mais il y a énormément de choses conditionnelles qui ne nous concernent pas. Pareil, une très très belle phrase, tout ce que vous voulez, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Il n'est pas dit « c'est la grâce, c'est l'œuvre accomplie, c'est... je ne sais pas. » Non, c'est la loi et les prophètes. On est encore dans ce contexte légal. Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Faites-le de même. Pourquoi ? Pour en tirer un bénéfice d'un point de vue légal. Et en même temps, je suis sous la grâce, je peux prendre ce verset-là et dire « je vais y inclure l'œuvre accomplie à l'intérieur » et dire que, quelque part, il y a aussi une loi simplement naturelle sur Terre, que si je balance des baffes à tout le monde, je vais en prendre dans la tête un jour. C'est évident. Que je suis appelé à faire du bien aux autres. Oui, d'accord, on va l'appliquer. Mais première lecture, elle n'est pas pour nous. Et en fait, si vous regardez bien la première lecture, elle est très légaliste. Alors pourtant, ça c'est un très beau verset qu'on utilise très souvent, et on a raison de l'utiliser, sauf qu'il faut juste un peu, pas le spiritualiser, mais y inclure l'œuvre accomplie là-dedans. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Là, pourquoi est-ce que la porte, elle est étroite ? Parce que la loi, elle est sévère. Et que c'est bien compliqué, et que le chemin est beaucoup plus large d'enfreindre la loi que de l'appliquer, tout simplement. Maintenant, l'application que je peux faire pour nous, dans la période de la grâce, en y mettant l'œuvre accomplie, c'est que cette porte étroite, effectivement, je peux l'appliquer peut-être en termes peut-être d'illustration au salut en Jésus-Christ et en et du coup, parce que le côté étroit, c'est très légal. Quand je dis c'est légal, c'est en fait, ça veut dire, voilà, c'est étroit, tu passes pas, quoi. Mais l'application, quand j'y mets l'œuvre accomplie pour essayer de l'appliquer dans notre période actuelle, le côté étroit, je vais l'interpréter par le fait que quoi ? Que c'est pas que c'est difficile, c'est qu'il y a un seul message. Il y a une seule porte, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule vérité, il y a un seul chemin. Je reprends ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. C'est la porte étroite. Mais lu juste comme ça, la porte étroite, tu te dis, va pas falloir que je grossisse beaucoup. Vous voyez ? C'est vrai. C'est vrai parce que ça s'applique au royaume dans un système très légaliste. Mais si je veux l'appliquer à l'Église, et j'ai raison, je peux le faire, il faut que je sache que d'abord ça ne s'applique pas à l'Église, mais si je veux l'appliquer, je peux. Mais du coup, le qualificatif étroit va parler du fait que la seule porte, c'est Jésus. C'est du côté unique d'entrée du salut, c'est Jésus. Mais c'est pas ce dont il est parlé en premier lieu à cet endroit-là. Alors, j'avais dit Matthieu 7, 24, je le redis, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, etc. Donc je vous ai expliqué la suite, le roc, le machin. Ici, le principe dans le royaume, c'est quiconque entend ces paroles et les met en pratique. C'est quoi le principe dans la période de la grâce, pour nous aujourd'hui ? C'est pas ça. Nous, c'est quiconque entend ces paroles. Non. Quiconque entend ces paroles croit. Jean 5, 24. On va le lire tout simplement. Oulala, tu te trompes de chapitre. Voilà, 24, ça sera mieux. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, ça semble la même proposition de départ est la même, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Début de Jean chapitre 3, qui est déjà sur la fin de la vie de Jésus, celui qui ne croit pas est déjà jugé, celui qui croit ne passera pas en jugement. Et qu'est-ce qu'on a lu dans le sermon sur la montagne ? Celui qui juge sera jugé à la même dimension. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même période. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, pour le sermon sur la montagne, si une chose si très intéressante, ça c'est assez rigolo, le début du sermon sur la montagne, ce qu'on avait lu la dernière fois, en fait, il y a, le tout début, il y a 9 béatitudes. Ce qu'on appelle 9 béatitudes, c'est heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonneurs, heureux ceux qui ont faim, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, pardon, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, et réjouissez-vous, soyez dans les gains. Donc, 9 propositions. Ça, c'est le royaume. 9 propositions. 9, ça ne vous rappelle pas autre chose ? Le fruit de l'esprit. Galates 5.22. Et Galates 5.22, il y a 9, on va dire, béatitudes également, dans notre période de la grâce à nous, mais c'est pas la même musique. C'est pas la même musique. Alors c'est pareil, on pourrait également prêcher Galates 5.22 avec beaucoup de légalisme. Il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, qu'est-ce qui nous est dit ? Mais le fruit de l'esprit, donc ce n'est pas une œuvre, c'est un fruit, issu d'une relation, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Les dispensations ne s'opposent pas. Mais la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus, ils sont à Jésus. Ils ne sont pas en train de chercher à rentrer dans le royaume, à rentrer dans les cieux ou à rentrer dans la faveur de Jésus. Ceux qui sont à Jésus, ils y sont, c'est fait. C'est fait, c'est réglé. On crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, et vivre par l'esprit, en fait, c'est être sauvé, mais par contre, ce n'est pas, contrairement à l'usage qu'on peut avoir commun en français, ce n'est pas un verbe actif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais dire « je vis de cette manière », ça inclut un style de vie. Mais ici, il est fait en opposition, le fait de vivre, enfin, en opposition... c'est mis en démarcation. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Sous-entendu, je peux vivre par l'esprit et ne pas marcher selon l'esprit. Mais je vis quand même par l'esprit. Et donc, je suis enfant de Dieu et ma chair, elle a été crucifiée de manière absolue aux yeux de Dieu. Mais ce que je suis en train d'expérimenter, c'est pas ça. Vous voyez ? Et donc, comment vivre le fruit de l'esprit dans une communion, une relation avec Dieu ? Et parce que, en fait, on est conscient de la base. La base, c'est Tout a été payé, je suis accepté, je sais où je vais, et base, pour faire un parallèle avec un parallèle en termes de dispensation, mais avec Jérémie 31, où il est dit que je mettrai la loi dans leur cœur, nous, c'est pas la loi qui nous a été mise dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Et donc le fruit de l'Esprit peut être un fruit qui émane de moi, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Et qu'est-ce qui fait que je pêche sous la loi ou selon le royaume? C'est que je fais des choix négatifs par rapport à une loi qui inclut des conséquences. Mais nous, quand nous pêchons, en fait, c'est pas je fais bien, je fais mal, je fais ce que j'obéis à Dieu ou j'obéis pas à Dieu. C'est qu'en fait, je me déconnecte, je suis déconnecté, je suis pas en communion avec Dieu. Et le résultat, le fruit de ma vie, ce sont des péchés. Mais quand je suis connecté avec Dieu, le fruit de ma vie, c'est le fruit de l'Esprit. Et ça, c'est la pensée de grâce. Et ça, c'est la période de la grâce. Et ça, c'est le privilège que nous avons à expérimenter. C'est pour ça que, peut-être la semaine prochaine, ou je ne sais pas, ou peut-être la semaine prochaine, ou la semaine après, on verra, quand on parlera de Romains, à un moment donné, on verra ce que l'on doit savoir, ce que l'on doit considérer et ce que l'on doit vivre. Et les choses vont être dans cet ordre-là. Ils ne peuvent pas être autrement. Mais dans le royaume, il y a des choses à savoir, mais après, il n'y a pas des choses à considérer par rapport à nous-mêmes. Il y a des choses à mettre en pratique. Sinon, il y a une conséquence qui est pile ou face. Et nous, c'est pas pareil. Nous, il y a des choses à savoir, et ensuite, il y a à considérer, comme il est dit en Galates 5, ici, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce qu'il y a à considérer, c'est que ma chair, ma vieille nature, elle est morte. Et ce qui fait que je pêche, que je désobéis, que je me trompe, que je ne fais pas les bons choix, que je suis du coup discipliné par le Père aimant, c'est que, je perds mon fil, c'est qu'en fait, je ne considère pas que je suis mort, que Adam est mort, Adam en moi est mort. Et comme je ne considère pas qu'il est mort, eh bien, d'une manière claire ou plus subtile ou plus travaillée, je vais essayer de faire le bien pour être favorable à Dieu, alors que ce n'est pas le type de relation qui m'est proposé. C'est pas ça qui m'est proposé. Ce qui m'est proposé, c'est non, je t'explique. Ce qui te sépare de moi, c'est mort. C'est légalement mort et c'est véritablement mort pour l'éternité. Ta chair est morte. Et quand tu crois, quand tu vois et quand tu considères que ta chair est morte, tu peux vivre par l'esprit. Tu peux marcher par l'esprit. Vous comprenez? Et ça, c'est pas du tout le même principe que la loi, que le royaume, que ceci, que cela. Alors là, il reste un quart d'heure. En un quart d'heure, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, je veux quand même vous dire deux, trois petites bricoles. Je me répète un peu, mais j'essaye de mettre des termes un peu différents. Donc, dans le royaume, c'est que doit faire l'homme, puis Dieu est fidèle. Dans le principe de la grâce, c'est qu'a fait Dieu. Et qu'est-ce que je crois? Ah ben, attendez, on va s'amuser deux minutes. En Luc 10, 25-28, on va le lire rapidement, mais on finira sur ça. Et la semaine prochaine, on attaquera Acte, et je vous parlerai du parler en langue, entre autres. Acte 10, 25-28, Luc, pardon, 10, 25-28, c'est pareil, c'est en parallèle c'est avec le sermon sur la montagne. Oui. Un docteur se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ?» Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, ta force, ta pensée, enfin, etc., et ton prochain. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Et en Jean 6, 28, alors, on est habitué à ces versets et en général, on les inclut dans, quelque part dans notre théologie de la grâce, mais. Parce que là, ce que je viens de lire, en fait, c'est encore légaliste, ce que dit Jésus. Donc, tu aimeras ton Dieu, machin, dadadana, ben, fais ça et tu vivras. Tu le fais et tu vivras. D'accord ? Jean 6, 28. Donc, et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. » Non, ça c'est chapitre 7, donc ça ne va pas aller. Si je me trompe de chapitre, forcément, ça ne marchera pas. Donc, ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Donc, la question est la même. Mais là, on n'est pas dans la proclamation du royaume. Hein. Jean, je vous ai dit, il n'y a pas de proclamation du royaume dans l'évangile de Jean. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. La réponse n'est pas la même. Pourtant, la première, elle est jolie. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Ouais, mais ben, applique-le. Pas de problème, applique-le. Mais sous la grâce, c'est pas ça. C'est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et parce que tu crois en celui qui l'a envoyé, tu vas pouvoir avoir la capacité d'aimer ton Dieu, d'aimer ton prochain, de vivre les fruits de l'Esprit, de ne pas être hypocrite, d'être miséricordieux, d'être quelqu'un qui va procurer la paix, d'avoir une vie pure, etc., etc. Tout ce qui est dans le sermon sur la montagne. Mais la base n'est pas la même. La base, c'est croyez en celui que Dieu a envoyé. Et dans notre cas, c'est ben, vous avez la loi, appliquez-la. C'est tout. Sauf que vous avez la loi appliquée là, quand tu dis à Adam, ben, aime ton Dieu, ton cœur, toutes tes forces, etc., et ton prochain comme toi-même, ben, il prend une corde et il va se pendre. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas, c'est tout. Et c'est normal. Et en plus, c'est d'autant plus normal que c'est le but de la loi. C'est d'amener au fait qu'à la fin, tu te prends une corde pour te pendre. Et avant de tirer sur la corde, on te dit, attends, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a un sauveur, il y a une croix. Ta chair, elle est morte. La loi, en fait, elle nous amène à Romains 7. Ce que je veux faire, je le fais. Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Et ce que je ne dois pas faire, je le fais, enfin, vice-versa. Qui me délivrera de ce corps de mort ? Romains 8, 1. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie a triomphé de la loi de la mort et du péché. Et nous, dans la grâce, c'est ce que nous devons vivre, la loi de l'esprit qui triomphe de la loi de la mort et du péché. Il n'est pas dit que la loi de la mort et du péché est abolie, qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est pas là. Nous sommes sur terre, elle est là. Ma chair, elle est là, mais elle est morte. Mais pourtant, elle est vivante dans ce que j'expérimente, dans ce que je vois. Oui, mais à moi de me voir avec cette chair morte afin de vivre la loi de l'esprit. Qui surpasse la loi de la mort et de la mort et du péché. Donc deux choses différentes. Est-ce que j'avais encore des choses pour vous amuser deux minutes ? Attendez, j'avais mais il faut que je rassemble mon cerveau. Non, si j'avais mais je crois que je l'ai pas noté. C'est surtout ça le truc. Alors, oui, celui-là, il est où ? Je reviens, Matthieu 5, 27, ça nous donne quoi ? Euh... 6 choses aussi intéressantes. Je vais vous lire encore un passage du sermon sur la montagne. Romain, n'importe quoi. Ouh, il est fatigué le gars. Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il était dit tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà, comme je l'ai dit quelquefois, en même temps, la machine qui évalue l'intensité du regard, elle n'a pas encore été fabriquée. Donc, déjà, nous-mêmes, on ne sait pas trop si on convoite ou si on ne convoite pas, ou si on regarde. Voilà. Si ton œil droit... Ça, j'aime bien ça. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Nous, sous la grâce, est-ce qu'il faut s'arracher un œil pour ne pas aller en enfer ? Pas vraiment. Hein. Je pense que sous le royaume, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arracher un œil non plus pour ne pas aller en enfer. Par contre, ça parle d'une attitude qui doit être radicale. Pourquoi ? Parce que d'abord, par ailleurs, dans l'Écriture, on sait que Dieu n'est pas pour l'automutilation. Et d'une autre part, de toute façon, si je pêche avec mes yeux, que j'ai un œil ou que j'en ai deux, je pêche avec mon œil droit, ben, quand j'aurai plus l'œil droit, je vais pêcher avec mon œil gauche. Hein, je veux dire... Ça me semble assez évident. Si je vole avec la main droite, vous me la coupez, je vais voler avec la main gauche. Donc, je n'aurais pas trop solutionné le problème. Par contre, ça parle du fait d'être radical. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que, et là où ça ne s'applique pas à l'Église, c'est qu'ici, il est parlé de la gêne, il est parlé de l'enfer. Il n'est pas dit, voilà, tu vas être châtié, tu vas avoir des problèmes. Non, il est parlé de l'enfer. Donc tu te décales d'un millimètre, boum, tu es dégommé, quoi. Donc, ça ne s'adresse pas à nous. Par contre, on peut se l'appliquer, on met l'œuvre accomplie dedans, et le côté radical de la chose, oui, soyons radicales, effectivement, dans le sens qu'à un moment donné, on doit prendre des décisions, peut-être dures vis-à-vis de nous-mêmes, pour nous protéger de notre chair, pourquoi pas. Ça, oui. Mais ce n'est pas un moyen de gagner Dieu, de rentrer au ciel ou quoi que ce soit. Alors que là, par contre, eh bien, quelque part, c'est présenté ainsi. Il a été dit que celui qui répond... Bon, après, on s'en fiche, on l'a déjà dit. Le parjure, ça nous... Voilà, ça ira bien. Nanana. Une autre chose qui s'applique aussi, qui peut s'appliquer assez bien à nous, verset 37, il est dit, parce qu'au-dessus, il parle de parjure. Enfin, donc, en fait, de promettre des choses à Dieu et de ne pas les accomplir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je dirais qu'aujourd'hui, ben, nous, quelque part, c'est aussi un conseil qui peut être bon pour nous. Que notre parole, elle, c'est oui ou c'est non. Ce qu'on met entre les deux, c'est pas clair, en fait. Ça, effectivement, ça peut facilement s'appliquer à nous. Mais ce n'est pas une condition, alors que là-dedans, nous ne sommes que dans des conditions. Du coup, c'est pareil, la suite. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi. Et qui était mieux que la vengeance... de l'homme sans loi, en fait, puisque c'est un peu la pratique. Et c'est encore aujourd'hui dans certaines sociétés, comment on appelle ça, là, comme en Corse, le...
La vendetta.
La vendetta, ben, c'est ça. Il n'y a pas de loi, et la loi, c'est les familles qui se l'appliquent. Tu m'as fait ça, tu m'as coupé un doigt, je te coupe la main, tu m'as coupé la main, je te coupe le bras, et bon, et en avant, quoi. Et ça s'arrête jamais. Donc du coup, la loi légale, avec même une peine capitale derrière, c'est super gentil à côté de ce que fait l'homme sans loi, en fait. Donc déjà, c'est bien. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est ici. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui prendre ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux. Donne à celui qui demande, et ne te donne pas de celui qui emprunte. Ici, ce que je viens de lire, il n'y a pas, c'est pas je vous conseille. C'est pas c'est mieux comme ça. C'est pas une option qu'il peut y avoir dans la pensée de Dieu. C'est ça ou tu es hors jeu, en fait. C'est ça. Pourquoi ? Parce que ça s'adresse au royaume, ça ne s'adresse pas à l'Église. Donc quand je veux l'appliquer pour l'Église, j'ai intérêt de mettre l'œuvre accomplie là-dedans. Et mettre l'œuvre accomplie là-dedans, ça veut dire d'abord, premièrement, que ce n'est pas une règle, ce n'est pas une loi. Donc, de tendre l'autre joue, ce n'est pas une loi. De donner son vêtement, ce n'est pas une loi, etc. etc. Et que ça ne soit pas une loi, ça ne veut pas dire que je dois jamais le faire. Ça veut dire que ce n'est pas une loi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien à faire et que je ne dois pas le faire. Pour preuve, par exemple, tendre l'autre joue, Jésus, à un moment donné, n'a pas tendu l'autre joue. On l'a frappé, il a répondu. Il n'a pas donné un coup. Il a dit aux gens, il a dit, mais pourquoi tu me frappes ? En fait, il n'a jamais tendu l'autre joue. Là où il a tendu l'autre joue, si on peut dire d'une manière, c'est pas symbolique, mais un peu spirituelle ou figurative, c'est le fait que, ben oui, il est allé à la croix comme une brebis va à la boucherie, sans résister. Donc dans ce sens-là, oui, mais d'un point de vue comment dire, littéral, il n'a pas tendu l'autre joue. Vous lisez la fin des évangiles, il n'a pas tendu l'autre joue. Et en même temps, ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas attendre l'autre joue. Je suis en train de dire que sous le royaume, c'est une loi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour nous, c'est une option que Dieu peut nous demander par moment pour manifester à notre royaume. Mais ça ne veut pas dire que systématiquement, je vais dehors, on m'attrape mon manteau, on paraît, que je vais courir après la personne pour récupérer mon... Pas mon manteau, laissons tomber le manteau, parce que le manteau, nous, on s'en fiche. Votre porte-monnaie, votre smartphone, vous courez pas ? Est-ce que vous avez tort de... Non, mais alors, d'accord, mais est-ce que vous avez tort de courir ? Arrêtez de courir. C'est pas de Dieu, alors, de courir. Parce qu'à un moment, il faut aller jusqu'au bout des choses. S'il faut tendre l'autre joue de manière littérale, et tout le temps, et absolu, etc., et ça s'adresse à nous, là, le texte, il est clair. Hein. Tu donnes l'autre joue, tu donnes ton vêtement, et même tu donnes encore. Hein. Donc, si c'est une loi, on me prend ma pochette avec mon téléphone, machin, tout, ben, je cours pas, c'est bon, merci Seigneur. Mais je crois pas que ça soit le cas. Par contre, Dieu peut me dire de laisser courir. Mais ça sera pas la règle. Ça peut arriver. Il peut être qu'il va dire, ben, laisse courir. Moi, je prends soin de toi, c'est pas un problème. Tu vas faire une main courante. Va pas chercher à t'attraper avec... Voilà, ça peut. Mais c'est pas une loi. C'est pas obligatoire, si vous voulez. Alors que souvent, on dit, ouais, attends, le chrétien, attend l'autre jour et tout. Pas forcément. Par contre, je pense que là où le chrétien il doit tendre l'autre joue, il doit laisser son manteau, etc., c'est d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que tout comme l'attitude de Jésus, c'est « je vais à la croix et je ne résiste pas », je pense que le chrétien, d'un point de vue de son attitude spirituelle, elle ne doit pas être de rentrer dans des faux combats où il doit défendre des intérêts qu'il n'a plus à défendre quelque part. Dans ce sens-là, oui. Mais prendre une claque et pas la rendre, pas nécessairement. Ça peut arriver, mais ce n'est pas obligé. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Je ne reviendrai pas sur la montagne la semaine prochaine, je ne pense pas. Ou alors, ça sera 5 minutes pour finir. Et on démarrera Actes. Et puis, on parlera de ce que j'ai dit et puis d'autres choses. Merci.